Merci beaucoup, Père, d'être arrivé seulement, enfin d'avoir pu venir hier, puis votre lieu d'apostolat et de mission. Le thème que vous avez bien voulu aborder, qui est aussi le point d'orgue qui est un point de départ dans notre colloque, une femme pour mieux comprendre l'Église et le monde. Mais apparemment, vous en connaissez plusieurs, des femmes et même des familles qui peuvent nous aider à comprendre l'Église et le monde, parce que vous venez de publier, parmi tant d'autres, ce livre « Une famille sainte ». Ça parle de monsieur et madame, c'est ça même, dont vous pourrez admirer aussi l'exposition itinérante à l'occasion de leur canonisation. Un très grand merci d'être parmi nous, Padre.
Avant tout, je dois m'excuser parce que je parlerai votre langue dans une manière pas belle. Bah, je peux parler français presque une fois par an. Alors,
mais... il faut donc que nous vous invitions plus souvent.
Bien. Alors, le titre de ma conférence, « Une femme pour mieux comprendre l'Église et le monde », ne renvoie pas à des problématiques et des revendications féministes, mais simplement au beau remerciement que Jean-Paul II adressait à toutes les femmes consacrées dans sa lettre aux femmes. Merci à toi, femme consacrée, qui, à la suite de la plus grande femme, la mère du Christ, Verbe incarné, t'ouvre en toute docilité et fidélité à l'amour de Dieu, et donne ainsi l'Église et l'humanité entière à donner à Dieu une réponse sponsale qui exprime merveilleusement la communion qu'il veut établir avec sa créature. Alors, celui-ci est le don de Thérèse femme. Expérimenter et apprendre à tous comment on peut et on doit donner à Dieu une réponse sponsale. Cela n'enlève rien au fait qu'on puisse reconnaître tout de suite à Thérèse une actualité toute particulière. Mais il s'agit de l'actualité dont parlait Simone Weil dans une de ses dernières lettres, dans laquelle elle écrivait « Désormais, il faudrait dire des choses éternelles pour être sûr qu'elles soient d'actualité. » Alors, un peu d'actualité. Dans sa dernière encyclique, pape François a placé devant les yeux du monde les thèmes et les graves problèmes de l'écologie étendus à sa dimension plus large, celle de l'écologie humaine. Ce thème avait déjà été annoncé par le pape dans son message aux jeunes pour la prochaine journée mondiale de la jeunesse qui aura lieu à Cracovie. Et a pour thème la sixième béatitude, heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Et le pape dit qu'il faut avoir une saine attention à la sauvegarde de la création, et cela est nécessaire pour la pureté de l'air, de l'eau, de la nourriture, mais encore plus, il est nécessaire une écologie humaine. Observer, et s'il est possible, en tant que possible, purifier l'impureté du cœur. En quoi consiste l'actualité de Saint-Thérèse sur ces problèmes, selon, à mon avis? Que lorsqu'on parle de cette impureté du cœur, presque tous les commentateurs parlent de péché, non? Tout ce qui est qu'il y a au-dedans de nous des inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, la liste qu'il y a dans l'Évangile. Dans Sainte-Thérèse, il y a une certaine contradiction, parce qu'elle, d'un côté, dit « Je n'ai pas commis, je n'ai jamais commis un péché mortel. J'avais un peu plus de 14 ans, et dans toute cette première époque de ma vie, je ne trouve aucun péché mortel qui m'ait séparé de Dieu. » Et encore, cette affirmation vient plusieurs fois. Pourtant, elle parle souvent de ma vie déplorable, mi ruin vida, mes grands péchés. Elle dit d'être forte coupable, si ingrate, à tel point qu'elle s'exprime avec le mot saleté, laideur, et arrivant à décrire sa situation comme un si abject et dégoûtant fumier. Et arrive à dire que, cayendo y levantando, iba a dar de ojos en el infierno. À force de tomber et de me relever, j'aurais fini par aller tête baissée dans l'enfer. Olivier Leroy, dans sa biographie, a souligné que Sainte Thérèse a répété souvent qu'elle était une grande pécheresse. Elle l'a fait avec des mots si durs et apparemment si excessifs que la lecture, le lecteur a de la peine à la prendre à la lettre. Et le même auteur rappelle que sur une feuille du bréviaire qui lui servait encore à la fin de sa vie, la sainte avait inscrit la date de sa naissance et se désigne comme Thérèse de Jésus, la pécadora. Cette contradiction apparente se trouve dans le fait que Thérèse sentit le drame de sa vie à une profondeur telle, la plus grande profondeur du cœur, où il ne s'agit pas de péché, mais seulement de l'amour. Voici la grande actualité de Thérèse, l'invitation à se regarder au-dedans de soi, non pas sur le plan moral et ascétique, mais sur le plan strictement mystique. Son expérience a été à cet égard si bouleversante qu'il va caractériser les charismes particuliers qu'elle a reçus. Être capable de relire toute l'expérience de sa vie en termes de dialogue avec Dieu, c'est-à-dire en termes de prière. Mes études sur Thérèse a été décisif l'expression, le jugement qui donnait sur cette question il y a 50 ans le père Anastasio Balestrero, qui était le supérieur général de l'ordre. Il écrivit: voici ce qui caractérise Sainte Thérèse d'Avila et son enseignement. Pour la première fois dans l'histoire de la spiritualité chrétienne, la prière revêt une portée unificatrice de toute la vie spirituelle. La conception thérésienne de la prière fait que celle-ci acquiert une valeur plénière. Oh, je pense que pour comprendre les charismes propres de Thérèse, il suffit de lire la première phrase du prologue de sa vie. Parce qu'elle dit: on m'a commandé de ne pas parler beaucoup de mes péchés, mais de donner une relation sur ma manière de prière et le don que Dieu m'a fait pendant cette expérience de prière. La conséquence logique devait être que Thérèse devait composer un traité sur la prière. Déjà Origène l'avait fait, Saint Augustin, Saint Thomas, Saint Bernard. Elle a dit: pour expliquer ma prière, ma manière de prière, mes expériences de prière, je dois raconter mon toute mon existence. Elle commence de l'enfance, et après tout ce qui s'est passé pendant sa jeunesse, son adolescence, sa jeunesse, dans les premières expériences de la vie cloîtrée, hein. Tout ça est la prière, et prière égale vie. Pour expliquer notre prière, nous devons relire toute notre existence. Toute notre existence a été Dieu qui m'a dit quelque, veut, m'a dit ou veut me dire quelque chose, et toutes ces manières dans lesquelles je peux répondre ou ne répondre pas, entendre ou n'entendre pas, ou faire finta. Et faire semblant de ne pouvoir pas entendre, de ne voir pas de force, tout ça, tout ça. Tout ça est prière. La force, l'intuition principale de Thérèse. Mais, après, il y a une question peut-être plus délicate. Ben, si je comprends que je dois prier et faire des actes de prière afin que toute mon existence devienne prière, mais cette force unificatrice qui est peut mettre ensemble tous ces fragments de mon existence. Où est qu'on peut la trouver? Et alors, il y a la question que Thérèse, à la fin, dira, parlera à Jésus en lui disant, « Oh, vida de mi vida, tu es ma vraie et profonde existence. » Et cette unification dépend du fait que Jésus est prière vivante. Non? Von Balthas a dit que dans la Trinité est toute une prière entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. La vie de la Trinité est une vie de prière. Et Jésus qui s'est fait et qui a pris notre chair, est l'incarnation de la prière. Toute l'existence de Jésus est prière. Alors je pense que beaucoup des problèmes que nous avons traités ont au fond la même question que Thérèse a souffert. On dit souffert. Souffert pendant son expérience. Si au chapitre 22 de son autobiographie, elle dit qu'elle avait accepté un peu de temps seulement de penser que pour s'émerger dans la divinité, il faudrait abandonner, laisser de côté l'humanité de Jésus. Et elle dit, moi, ô Seigneur de mon âme, mon bien, ô Jésus crucifié, jamais je ne me souviens d'avoir eu cette pensée sans être saisi de douleur. Il me semble m'être rendu coupable envers toi d'une très noire trahison. À vrai dire, c'était de l'ignorance. Hein? Toute la question de la prière de Thérèse va vers la découverte de la nécessité de l'unité totale. Non? Le divin et l'humain doivent toujours aller ensemble dans toute l'expérience. Ecco. En écoutant parler de la relation entre l'amour du prochain et l'amour de Dieu, j'ai pensé que peut-être que nous pouvons courir le risque de refaire encore, remettre en question cette unité à partir de notre capacité de concerter les questions, non? D'être, direi, s'intéresse muy concertados, non? De les mettre ensemble. Je vais donner ce que je pense nécessaire quand on parle de cette question. Alors, je pense qu'il faut toujours commencer à partir de la maison de Nazareth. Hein? Toujours. Quelque chose qui est l'événement vraiment qui fonde notre foi. Alors, je pense à la Sainte Vierge, à Marie. Dans le moment où il y a Hérode qui est en train de construire le temple le plus grand, le plus merveilleux de l'Antiquité, non? On dit que pour construire le Santo dei Santi, il y avait 1000 prêtres seulement pour cette construction. Alors, l'ange vient à Marie et dit, vois Marie, que ton corps deviendra le temple de Dieu, est le vrai temple de Dieu, si tu as c'est ce que je te dis. Marie, la puissance du Très-Haut te couvrira, non, avec par son ombre. Et cette phrase était pour la description de ce qui s'est passé dans le temple. Marie doit penser maintenant qu'elle est le temple de Dieu. Mais après, si Marie doit lire l'Écriture, doit prier en avant conscience que la parole de Dieu s'est fait chair dans son ventre, non? Mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Dieu, mon Sauveur, est Jésus. Et encore, dans la maison de Nazareth, quelque chose parle. Qui est Dieu? Jésus. Qui est le prochain? Jésus. Ce sont la même identique, l'unique personne. Après, pour les apôtres, non, Jésus était Dieu et le prochain. Non? L'unification totale de deux commandements. Il faut partir toujours de cette question. Et si, quand Marie, permettez, c'est pas de sentimentalisme, mais de la vérité. Si dans le temple, il y avait toute l'offerte sacrificale pour Dieu, le grand sacrifice, dans la maison de Nazareth, le culte qu'on devait à Dieu était Marie qui préparait la soupe pour les petits. Non? Les grands vêtements des prêtres était la Marie qui lavait le vêtement blanc de l'enfant, ou cette petite sandale posée au côté du lit. Je veux dire que tout commence dans une maison, non, dans laquelle traiter Dieu et traiter les prochains plus proches, non? Les deux sont la même identique question. Et pour Marie, parler avec l'enfant, elle dit, Jésus, tu peux sortir, tu dois revenir à la maison, tu peux t'amuser avec tes amis. Ou, si Jésus disait, est-ce que je peux aller à l'atelier de mon père, tout ça était prière, était dialogue entre l'homme et Dieu. Alors, si cette est la question fondamentale, ontologique, alors ce que la spiritualité carmélitaine dit est que la question de l'amour vers Dieu et vers le prochain est toujours comprendre d'être, comme disait Élisabeth de la Trinité, un prolongement de l'humanité du Christ. Une humanité de surcroît. Nous ne pouvons pas oublier que Sainte Thérèse de Lisieux, après avoir écrit dans le manuscrit B qu'elle est collocata, elle habite dans le cœur de l'Église, elle a toute vocation, non? Mais seulement à la fin, dans le manuscrit C, elle dit pendant ces derniers mois de vie, elle dit, j'ai compris qu'est-ce que c'est que la charité. Thérèse dit, j'ai compris qu'est-ce que c'est que la charité. Et Jésus qui veut aimer en moi mes sœurs. L'unification est cette prolongation. Je pense que Thérèse a compris son expérience de prière quand a compris jusqu'au fond le mystère de l'incarnation de Jésus et de l'humanité de Jésus. Et la sponsalité est que ton humanité devient mon humanité et mon humanité devient ton humanité. Et dans une manière totale. Alors, la première question, la vie, prière et vie sont la même chose. En Jésus surtout. Et à partir de ces contemplations, dans mon appartenance, pas sentimentale, pas simplement parce que je regarde un tableau, non, mais une alliance sponsale. Et la prière, ecco, l'homme, la créature, devient prière avec Jésus, en Jésus, pour Jésus. La première question, lorsque Thérèse, l'expérience l'a conduit à fonder sa première communauté, Thérèse est une théologienne, parce qu'elle a de la logique. La première question pour être de théologienne. Elle dit que si mon existence est prière, peut être prière toute la vie de la communauté, toute entière. Pour Thérèse, est prière le monastère, même dans ses structures extérieures. Même dans le... Comment s'appelle Mouri? Dans les murs, même dans les travaux qu'il faut faire, même dans la cuisine où il faut préparer ce qui est nécessaire pour l'existence de la communauté, un lieu dans lequel, c'est le vrai sens de la clôture, tout est prière, tout est contemplation. Pour Saint-Thérèse, et la question de Marthe et Marie n'est pas simplement un idéal ou pour quelque chose qu'il faut réaliser avec en se fatiguant spirituellement, c'est vivre dans une situation, non, un lieu dans lequel tout est contemplation et tout est action dans le même temps. Bien, mais comme pour son existence, c'était nécessaire comprendre que la vraie existence faite prière est Jésus. La même question, elle la découvre dans une manière nouvelle pour la communauté. Quand on dit que Thérèse a ecclésialisé la contemplation parce qu'elle a donné un bout contemplatif d'élever avec sa prière, avec ses sacrifices, avec sa contemplation, aider l'Église. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Parce que la réalité est que Thérèse a compris que, pas simplement la centralité de l'humanité de Jésus, mais la continuation historique ecclésiale de cette humanité qui souffre encore. La vision de Thérèse, quand Thérèse a la notice, comment dit, notizia? Non. Apprendre que l'Eucharistie est calpestée, et profanée dans les pays. Elle vit une vraie angoisse de dire, mais dis-tu à Dieu le Père, et ton fils qui souffre encore. Pour moi, quand je pense à Thérèse, je vois que l'image de Thérèse après la fondation, je pense, de Médina, peut-être que elle n'est pas réussi à compléter l'œuvre de la maître de la clôture, mais il y a déjà l'Eucharistie. Et alors, il passe toute la nuit en protégeant l'Eucharistie. Et là, ça, son image est parfaite. Hein. Alors, même pour la communauté, cette communauté, il faut être, disons, avoir la conscience, être destiné à cette communauté ecclésiale, non, ce corps ecclésial qui est encore le corps souffrant du Christ glorieux. Et cela, pour Thérèse, est déterminant. Après, on peut dire encore que si on regarde les fondations de Thérèse, toute la narration de travaux, de voyages sur les chariots, de tout ce qui s'est passé là, les pericoli,
les dangers,
et après l'histoire des vocations, les vocations qui viennent tout heureuses, et celles qui sont ont des contradictions dans les familles, et toute une histoire de prière, non? L'histoire des âmes, des jeunes filles, non, qui veulent devenir prière vivante et habiter dans un lieu, non, qui pour toute l'Église est la prière. Bien, encore, il y a à la fin de son existence, c'est toujours la même logique, et si ça est vrai pour moi, pour mon expérience, si ça est vrai pour l'Église tout entière et mes communautés, à partir de mes communautés, la même chose, on peut la dire pour chaque homme, hein? Le château intérieur, comme est construite la personne humaine, comme Dieu l'a imaginée, hein? Dans cette question, dans cette manière, l'âme est le château de Dieu, mais Dieu est le château de l'âme, il faut dire les deux choses tous ensemble. Alors, Thérèse commence à décrire, et on pourrait dire beaucoup de choses, mais des aspects qui sont vraiment émouvants de l'expérience que Thérèse est en train de décrire. Avant tout, le Dieu de Thérèse. J'ai trouvé dans une... Je pense dans un lit, un mélange des études faites en France sur la question quand on parle de la vérité, non, que Thérèse décrit à dire, présence de l'homme à Dieu, de Dieu à l'homme, surtout à la fin de camminer dans la vérité, marcher dans la vérité, andare in verità, hein? Marcher dans la vérité, qui est la vérité de toutes les vérités, et non, c'est que tu ne dois pas simplement et seulement penser aux questions de l'amour de Dieu, que Dieu souffre, que même tes péchés soient devant ses yeux, non? Quand on nous disait pendant l'enfance que en péchant tu t'éloignes de Dieu, Dieu et tes relations avec Dieu sont obscurcies, la vérité est que nous, peut-être, ne sommes jamais si devant Dieu comme quand nous sommes là, comme des enfants qui ont tombé. Nos pécheurs, ça arrive devant les yeux de Dieu qui t'aime. Pour Thérèse, c'est la question déterminante qui vraiment dit à ton cœur si tu es péché devant les yeux d'un si grand Dieu. Hein? Et après, la question fondamentale que nous disons que Dieu est semper maior. Thérèse disait que Dieu est semper maior in donando. C'est lui qui est toujours plus grand dans son désir de donner. Parce qu'il veut se donner. Et s'il veut donner soi-même, il veut donner tout. Parce que tout est encore avant que Dieu arrive à faire ce don total de soi-même. Alors Dieu est toujours plus grand. Thérèse, si je pouvais parler avec Thérèse, ce que Thérèse pourrait dire est, tu dois prendre tous tes désirs, tout ce que tu veux, tout. Il faut mettre tout ensemble, il fait un peu mazzo, comme se dit.
Un paquet global.
Non, paquet, comme des fleurs.
Un bouquet.
Tout ce que tu peux penser, les grands désirs, les désirs immenses, les désirs infinis, des intérêts, et tu vas devant Dieu, et Dieu te dirait, si peu, est-ce que ce que tu veux de moi, hein? C'est la question. Un Dieu qui veut être donné tout. Et alors l'homme, l'épouse, doit apprendre cette totalité. Il y a beaucoup de choses que Thérèse dit pour apprendre cette totalité. Je n'ai pas le temps de faire, mais quelque chose qui pour moi est, je le répète, pas pour des questions sentimentales, mais parce qu'il faut... Et maintenant, aujourd'hui, surtout dans cette époque de relativisme, il faut à nouveau parler au cœur des hommes. Hein? La première question est que tu dois comprendre vraiment une question d'amour. J'ai fait... pour moi, ce qui me dit quelque chose. Lorsqu'on s'aime, disait le Père, non, c'est lui qui aime, et dans le cœur, dans l'âme, de celui qui est aimé, et vice-versa, non? Cette immanence, double immanence. Alors, il faut dire que quand j'aime quelqu'un, mon visage, pour ainsi dire, ma personnalité, ce que je vraiment suis, devient plus clair, non? Et je donne à l'autre personne qui est aimée et qui reçoit mon amour la même possibilité de manifester un nouveau visage de sa personne, non? Alors, nous devons penser, si Jésus m'aime, Jésus révèle mon humanité à moi. Mais c'est vrai, dans le même temps, que je donne à Jésus la possibilité d'une nouvelle révélation de son visage. Si dans l'amour, on est unique, juste, je ne suis une personne d'entre un million de personnes, unique. Alors, quand on étudie et on lit ou on pense, on réfléchit sur l'expérience des saints, l'histoire, la question qui est plus fascinante, non? Et c'est que d'un côté, il y a Jésus qui réalise, non, et forme donne une plasmation à cette personne, à cette histoire, à cette vocation, à cette œuvre, non? Chaque saint a un visage de Dieu. Mais dans le même temps, Jésus est révélé chaque fois dans une manière particulière, nouvelle. Sainte Thérèse, sans ce que nous connaissons de Jésus, ne serait pas la même chose. Non? Jésus a révélé quelque chose du visage de Jésus. Si est vrai la question de l'amour sponsal, de l'unité sponsale, est vrai qu'il y a cette réciprocité de révélation. Se laisser aimer de Jésus et l'aimer, ça veut dire permettre à Jésus de continuer sa révélation dans le monde. On apprend toujours quelque chose, un aspect nouvel de son histoire, de son mystère. Encore, il y a beaucoup de questions. Maintenant, pendant que nous parlons, les parents de Sainte Thérèse de Lisieux viennent d'être, ou peut-être dans ce moment, ils sont canonisés. Vrai? Alors, si ce que Thérèse dit de cette union sponsale, dans laquelle Jésus dit à Thérèse, ton honneur est à moi, non? Et mon honneur est à toi. Tu dois t'occuper de mon honneur et moi de ton honneur. Cioè, Jésus, tous les problèmes que Thérèse avait deviennent question de Jésus qui doit les résoudre. L'union sponsale. Tandis que Thérèse, à la fin, aura la baraonde des fondations, des amitiés, des affaires, mais il n'y a aucun problème dans sa relation avec Jésus. Non? Pas comme dans ses premières expériences. Parce que tous les problèmes de Thérèse deviennent problèmes de Jésus. Mais les problèmes de Jésus, ou de son Église, deviennent, non, des problèmes de Thérèse. Alors, et Thérèse est chargée, et Jésus arrive à lui dire, oh, il n'y a pas de problème, il suffit que tu manges pour moi, que tu dormes pour moi, tout ce que tu fais, tu dois le faire pour moi. Non? C'est le changement des dots, des biens totaux. Bien, à la fin, mais si il est vrai que notre vocation est pour cette cette sponsalité, alors cette vocation qui traditionnellement on l'appelle la virginité est la première question de l'être humain. Nous, il y a le mariage et après tout à autre côté il y a la virginité comme une vocation spéciale pour quelqu'un du point de vue statistique, on dit de la statistique. Statistique, là il y a la grande masse quelqu'un est appelé à la virginité, mais la vérité au contraire, la virginité est la première vocation pour tous. Quand Saint Jean de la Croix dit que le cœur de l'homme n'est pas satisfait avec moins que Dieu, non? Ou que les profondités, les cavernes, non so, c'est juste de l'âme, ne se remplissent pas sinon avec l'infini, hein? Saint Jean de la Croix. Dit que il y a une vocation fondamentale pour tous. Et que l'autre vocation, la question du mariage que nous voyons maintenant au synode, on ne peut pas vraiment l'annoncer, la percevoir, la réaliser, si on ne fait pas une catéchèse, un travail, une nouvelle éducation à cette originaire virginité du cœur. Alors je pense que peut-être nos karmas, maintenant avec les parents de Sainte Thérèse, devront être très attentifs à considérer leur première vocation. On dit, mais lui, matin, il voulait devenir moine. Elle voulait être visitandine, l'ordre de la visitation. Après, ils ont fait un mariage, mais un mariage, comme on dit, un peu... Non, avec une choix de chasteté, et après, on l'a convaincu que c'était normal. Je pense que ça serait, distruggere, rovinare, détruire vraiment un message. Peut-être nous avons l'expérience à l'annoncer, non, d'un couple et d'une famille sainte. Et je pense que l'histoire sera complète lorsque l'autre sainte sera Léonie, la fille caractériale impossible, non? L'autre, c'est parfait. Alors, quand cette vocation, comme Thérèse l'a dit, je suis né dans une terre, non, virginales. Non, dans ce, là, ma famille était toute embaumée d'un parfum virginal. Hein. Peut-être nous avons maintenant, nous, Carme, la responsabilité d'utiliser cette question, cette histoire, pour vraiment, non, dire qu'il y a une autre manière de parler de la sponsalité. Parce que nous, si c'est que Thérèse dit de la sponsalité avec Dieu, c'est vrai, et la vocation de à l'union mystique, tous sont appelés, non? Si c'est vrai, est vrai. Et alors il faut que ça devienne de la pédagogie. Et peut-être une pédagogie qui Dieu a déjà donné à notre spiritualité carmélitaine. Je pense que nous avons encore des choses à évaluer, non? Et valoriser.
Mettre en valeur.
Toute l'histoire et le message de Madeleine Delbrel, qui est typiquement, diciamo, ha une origine typiquement carmélitaine, et cette question de cette sainte famille qui nous vient d'être donnée. À la fin, parce que le fermo di 05. Non, mais sono io che. Alors, je vais vous dire que c'est pour moi la mission du Carmel et de Saint-Thérèse, va bien? Maintenant, je pense que ce qui me parle au cœur est dire que la vocation du Carmel est aller jusqu'à la majeure profondeur possible, non, dans le cœur de chaque homme, pour le maximum de l'extension missionnaire, va bien? Le maximum de la profondeur pour le maximum de l'extension. Alors, vous voyez, quand on me demande, mais qu'est-ce que c'est que le Carmel? Je pense toujours à un seul test du magistère. La Gaudium Spes, nombre 19.
Numéro
19, scusate. Non, si. Non, il y a, et normalement, ce test est traduit dans une manière presque
erronée.
Non, erronée, mais
fautive.
Même à l'italienne, en français. Parce que je peux dire. Alors, l'Église est en train de parler au monde, mais à la extension plus extrême. La crise va parler aux athéistes, aux athéistes, à los athées, les derniers cercles. Elle dit, la raison plus sublime de la dignité de l'homme, pas l'aspect sublime comme on traduit normalement, mais la raison, c'est dans le fait que Dieu, que l'homme est appelé à la communion de Dieu. En fait, l'homme n'existe pas sinon parce que Dieu l'a créé ex amore, non par amour, mais ex, en le tirant en dehors du sein de son amour, non? Et il subsiste dans l'existence, continue à exister parce que Dieu continue à le tirer ex amore, hein? Afin que l'homme apprenne à se confier à Dieu et se jeter dans ses bras, à peu près. Mais ce n'est pas encore la question. La chose plus incroyable est qu'à la fin, on parle aux athées, on dit, plusieurs hommes aujourd'hui ont oublié ou ne comprend pas, anc intimam ac vitalem coniunzio cum Deo, vuol dire intim et vital liaison conjugale avec Dieu, parce que la coniunzio latina non è, vous connaissez que quand Thérèse était en train de mourir, elle n'a dit pas à Dieu, c'est mon époux, et c'est le moment que nous, est arrivé finalement le moment que nous voyons.
ça, c'est une correction pour, avec un peu de la première biographe. Mais sur 13 témoins, 12 disent que Thérèse a dit c'est le moment que nous unissions, que nous juntemos, dit Thérèse. La vraie expression finale. Alors, on dit intima, activita, l'intime est vital, liaison presque conjugale avec Dieu, ça, que l'expression que je dois utiliser si je parle de nos carmélites ou de saintes au plus haut niveau mystique, non? Cette expression est exactement ce qui est le désir de l'athée, que l'athée a dans son cœur, mais il ne peut pas le connaître ou il l'a oublié. Il faut dire nouveau, l'Église doit à nouveau l'annoncer. Alors j'ai une vocation, hein, qui en fait appartient à n'importe quel homme, même l'étranger, même les pauvres, même celui qui est ivre sur la route, tout la vocation de l'homme. Le catéchisme de l'Église catholique dit que l'union mystique, tous sont appelés à l'union mystique. Et le pape, dans le nouveau millénaire, disait qu'il faut mettre la sainteté dans la programmation pastorale, et ça se fait avec une école de prière qui doit aller jusqu'à la vraie folie du cœur, non, l'usquadamazione cordis, et cela, pour apprendre cela, il faut lire Saint-Thérèse d'Avila, Saint-Jean de la Croix, et ça, notre vocation. Alors, l'idée, Saint-Thérèse dit quelque chose de si profond et qui est un message pour n'importe quel homme. Et quand l'Église souffre de problèmes comme dans ces jours, de ne comprendre pas ces problèmes, d'autres problèmes, l'autre problème, la manière plus terrible de traiter ces problèmes et de se mettre au niveau plus bas, hein, en pensant de retrouver un consensus. Quand l'Église a des problèmes, elle doit se placer au plus haut niveau possible. Alors il devient vraiment possible de voir ce que Dieu dit à nos cœurs.
Merci de tout notre cœur, Père. Vous nous avez entraînés à partir d'une érudition si nuancée et si profonde à la fois sur Thérèse d'Avila et sur les nécessités du monde, dans le partage d'une expérience existentielle, personnelle, qui m'a bouleversé. Et qui fait tellement écho à ce que le Père Noriega nous a dit sur la nécessaire mise en œuvre des practicas, des manières nouvelles d'agir, qui attestent que Jésus ne cesse de se révéler dans les saints qu'il entend bien saisir pour les envoyer en mission.